Chapitre 19. Henry Cobb vivait dans un petit studio au quatrième étage. Ce qu'on appelait chambre d'étudiant était en fait constitué d'une pièce principale avec une kitchenette, un coin bureau et un lit une place collé sous la fenêtre ainsi que d'une salle d'eau indépendante. Des affiches de cinéma vintage tapissaient les murs, illustrant des soucoupes volantes en carton et des monstres en pâte à modeler, genre la planète des dinosaures, les survivants de l'infini ou encore la femme aux trois visages. Les étagères en pin, quant à elles, ployaient sous le poids de vieux appareils photos, de pellicules, de matériel de tournage. Le jeune homme referma la porte derrière eux. Il balança son sac par terre, piocha un coca dans le réfrigérateur et en proposa un à Lizine, qui refusa, trop perturbée pour avaler quoi que ce soit. « Je ne comprends pas !» fit-il en désignant une chaise à roulette pour qu'elle s'installe. « Si vous êtes la vraie Lizine Bart, qui était l'autre ?»«
Je l'ignore. Visiblement, elle se fait passer pour moi depuis un bout de temps. Vous pourriez me dire à quoi elle ressemble ?»«
Je dirais qu'elle a à peu près votre âge, même taille, plus mince. Les cheveux roux jusqu'aux épaules, un tatouage à la naissance de son cou. Je crois qu'il représente un attrape-rêve. Elle a les yeux pas marrons, mais noirs. Une femme nerveuse, toujours aux aguets. Elle prétendait être journaliste indépendante et j'avais aucune raison de penser qu'elle me mentait. Au contraire, elle avait un look qui collait bien, style vadrouilleuse avec son petit sac à dos, fringuée à la va-vite, peu attentive à son apparence.
Comment vous l'avez rencontrée ?
Il s'assit sur le rebord de son lit, face à elle.
C'était il y a environ un an et demi. J'étais en première année et je faisais des recherches à l'INATEC de la BNF pour un projet sur les pubs dans les années 1970. J'y allais tous les jours et elle aussi. On travaillait sur des postes voisins, alors on a fini par sympathiser.
Lizine acquiesça silencieusement pour l'encourager à poursuivre.
Elle bossait sur un gros sujet autour de la violence dans l'art, expliqua Cobb. La façon dont elle m'en a parlé m'a conquis. Ça avait l'air hyper intéressant. En gros, l'étude qu'elle menait depuis des semaines partait des peintures des grottes de Lascaux pour arriver à ce qui est diffusé de nos jours dans les salles de cinéma. Et elle se posait une question. Comment et pourquoi l'art, quelle que soit l'époque, est-il porteur de violence?
Il vida sa canette et l'ajouta au tas de celles qui encombraient déjà la corbeille.
Elle comptait explorer les domaines de l'art contemporain, de la sculpture, de la littérature, de la peinture. Vous avez déjà vu des tableaux de Jérôme Bosch ou de Francis Bacon, je présume. Ces corps déformés, ces écorchements, c'est d'une violence incroyable. Elle écumait les galeries, les résidences d'artistes du tout Paris pour échanger et alimenter son projet avec des œuvres d'aujourd'hui plus anonymes, mais tout aussi frappantes. Bien sûr, sa curiosité pour les archives de l'INA concernait la partie 7e art. En tout cas, peu importait le domaine, ce qui la fascinait, c'était de savoir jusqu'où un artiste pouvait aller au nom de l'art. Quelle frontière morale il pouvait franchir en prétextant servir son œuvre.
Il alla chercher un Mad Movies dans une pile de magazines, le feuilleta et le confia à Lizine. Aussitôt, elle plissa le nez devant la crudité des photos, sur lesquelles on voyait des animaux sacrifiés, ou encore, en gros plan, une indigène nue empalée avec le piquet de bois qui lui ressortait par la bouche.
« Cannibal Holocaust », précisa Cobb. Long métrage mythique sorti en 1980. Vous avez peut-être eu vent de la polémique au sujet de ce film qui oscillait entre l'approche documentaire, caméra à l'épaule, et le pur film d'horreur, dans lequel ont été intégrées de vraies images d'exécution. Ruggero Deodato voulait choquer l'opinion, déranger, montrer à quel point le cinéma peut être trompeur et rendre le spectateur incapable de distinguer le réel de la fiction. Certains n'y ont vu qu'un ramassis d'abominations, d'autres du génie. À un point tel que Deodato a eu des ennuis avec la justice, car on l'accusait du meurtre de certaines actrices, si on peut appeler ça comme ça. Voilà le genre de truc qui branchait Lizine. Enfin, celle qui se présentait ainsi. Les œuvres dérangeantes et percutantes qui lui permettaient de creuser les obsessions et tourments de leurs auteurs.
Lizine lui rendit le magazine, mal à l'aise. Son usurpatrice menait donc une véritable enquête, comme une vraie journaliste. Elle ne comprenait toujours rien à ce sac de nœuds, mais il était temps de passer aux choses sérieuses. Elle posa le boîtier noir sur ses genoux et l'ouvrit.
« Parlez-moi de ça. »
Cobb se releva, fit quelques pas en silence,
visiblement perturbé.
« Comment vous l'avez récupéré ?»
demanda-t-il d'une voix tendue. Lizine décida de lui faire confiance. Clairement, cet étudiant avait encore plus peur qu'elle. Elle lui expliqua alors l'histoire depuis le début, jusqu'à l'étiquette collée grâce à laquelle elle était entrée en contact avec lui. Elle évoqua également le cambriolage, environ 3 mois plus tôt. Pour elle, il était évident que ça avait un rapport avec cette bobine. Après l'avoir poliment écouté, Henry Cobb déchargea les classeurs de son sac sur son bureau.
« Je ne veux pas d'emmerde. J'ai des examens très importants la semaine prochaine et je dois réviser. Rentrez chez vous et suivez mon conseil. Oubliez ce que vous avez découvert. »
« J'ai essayé de m'en débarrasser. Je ne peux pas.
Mettez-vous à ma place. J'ai besoin de comprendre pourquoi cette femme a volé mon identité. Pourquoi moi, je me retrouve mêlée à tout ce bordel. Et aussi ce que ce film représente. Je vous garantis que vous n'aurez pas de problème. Personne ne sait que je suis venue vous rendre visite. J'ai été très prudente. Je vous ai appelé avec un téléphone jetable. Le seul lien entre vous et moi, c'est ce numéro sur le boîtier. »
À peine eut-elle terminé sa phrase qu'elle lui tendit le couvercle.
« Gardez-le. Quand je serai sortie d'ici, vous n'entendrez plus parler de moi. Mais je vous en prie, éclairez-moi. »
Un long silence, durant lequel il sembla peser le pour et le contre. Puis il finit par hocher la tête. Il s'empara du couvercle et arracha l'étiquette avant de le lui rendre.
« D'accord. Mais une fois que je vous aurai tout raconté, vous ne pourrez sans doute plus faire marche arrière. Il sera trop tard.
Il est déjà trop tard. »